Est-ce qu'il est possible de créer une relation amoureuse qui fonctionne quand on a eu une enfance difficile? Est-ce qu'on peut créer un couple sain quand on a eu des modèles qui dysfonctionnaient? Est-ce qu'il faut faire 10 ans de thérapie individuelle avant d'espérer pouvoir aimer et être aimé comme on le désire? Est-ce qu'il faut aller déjà bien, avoir tout nettoyé, être tout clean ou savoir s'aimer soi avant d'oser penser à construire une vie à deux?
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
Alors moi, je l'ai cru. Moi, j'ai cru qu'il fallait que je sois intégralement réparé. J'ai cru qu'il fallait que je fasse 10 ans de thérapie et que je sois tout clean et que j'ai plus peur de rien et que je sois capable d'être toujours joyeux et que je sois capable d'être toujours confiant et que je sois toujours sûr de moi et que je sois capable de toujours avancer. Voire même qu'il fallait que j'aie un travail stable pour avoir le droit d'avoir une famille, qu'il fallait que j'aie une position respectable dans la société pour avoir le droit d'être père. Et j'ai pensé ça pendant très longtemps, et je me suis fait vraiment mal avec ça. Et cette pensée, aujourd'hui, avec plus de recul, je la trouve très embêtante et très douloureuse, parce qu'elle va justement puiser dans la honte. Elle va puiser dans le fait que ce que je suis, qui je suis, ne serait pas suffisamment bien pour être digne d'amour. Ça voudrait dire que qui je suis n'est pas suffisamment bien pour être aimé. Ce serait la qualité de la personne que je suis qui ne serait pas assez bonne pour avoir le droit d'aimer et d'être aimé. C'est douloureux comme idée. C'est très embêtant comme manière de penser. Et en plus de ça, c'est une triple peine. Parce que ça veut dire que c'est parce que j'ai mal, c'est parce que je souffre que j'ai pas le droit à l'amour. En plus de ça, parce que je souffre, je suis responsable de trouver par moi-même les solutions à cette souffrance pour ne plus être en train de souffrir. Donc si j'y arrive pas, en plus de ça, c'est ma faute. Et enfin, qui décide quand je suis réparé? Qui décide quand c'est fini? Qui décide quand je suis suffisamment bien pour avoir le droit d'aimer et d'être aimé? En fait, c'est sans fin. C'est un processus qui ne s'arrête jamais et qui continue encore et encore et encore à ne jamais être suffisant. Ça crée une forme d'insatisfaction perpétuelle. Et je pense que quelque part, le développement personnel moderne contient en lui le germe d'une forme de tyrannie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de choses sur Internet qui sont accessibles que si on ne réussit pas à se sentir bien et à être bien et à résoudre ses problèmes, quelque part, ça serait notre faute. C'est-à-dire, avec tout ce qui existe, franchement, si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne veux pas. Hein.
Sur ce sujet, celle qui nous a éclairés et enflammés, je dirais même, c'est Brené Brown, encore et toujours l'unique et la seule, qui est donc une chercheuse spécialisée sur le domaine de la honte, de la vulnérabilité, mais aussi du coup du lien, de la connexion, de la créativité. Et dans une de ses TED que vous pourrez facilement retrouver sur YouTube, qui s'appelle TED sur la vulnérabilité d'ailleurs, elle raconte que, en fait, elle a commencé à faire des recherches sur justement qu'est-ce qui permettait aux gens d'avancer à cœur ouvert dans leur vie, d'oser, de créer, de se sentir bien. Et puis, elle s'est rendue compte, en fait, qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait ceux qui, justement, osaient et avançaient avec ce cœur ouvert et ceux qui ne le faisaient pas. Et elle s'est demandé pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait que on est dans un groupe ou on est dans l'autre. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que, en fait, la différence entre ceux qui recevaient l'amour et l'appartenance dont ils avaient besoin et ceux qui luttaient pour, la différence entre les deux, c'est que les premiers croyaient qu'ils étaient dignes de cet amour et de cette appartenance. Comme si, en fait, la seule chose qui permet de recevoir ce dont on a besoin, c'est commencer par croire qu'on est digne de le recevoir, qu'on le mérite, que c'est OK pour nous de recevoir cet amour et ce sentiment d'appartenance. Donc on croit que il faut qu'on n'ait plus mal nulle part pour pouvoir être aimé, pour pouvoir recevoir de l'amour. Alors qu'en fait, c'est justement en recevant cet amour et en acceptant de le recevoir qu'on va se réparer aux endroits à l'intérieur de nous où on croit que on n'est pas digne, que on n'est pas comme il faut, que il faut encore que na. Là, il y a quelque chose de OK, en fait, je vais partir du principe que par défaut, comme je suis digne de cet amour. Et c'est justement parce que je vais le recevoir que du coup, je vais pouvoir renforcer cette croyance à l'intérieur de moi. Et puis aussi parce que, et c'est ce que dit Brené encore une fois, c'est que le lien et la connexion se fondent sur les vulnérabilités partagées, sur cette humanité qu'on partage. Et ça, c'est aussi nos émotions, nos douleurs, nos cicatrices. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans douleur, il n'y a pas de vie humaine sans cicatrices, sans bosses sur le chemin et sans choses à l'intérieur de nous qui font mal. Mais c'est justement parce qu'on les a ensemble qu'on va pouvoir se connecter si profondément et si authentiquement, et qu'on va avoir la sensation d'être vraiment vu et d'être vraiment aimé.
Alors cette culture du développement personnel individuel peut faire beaucoup de dégâts à cet endroit-là, parce qu'on croit qu'il faudrait se réparer soi-même, tout seul, avant, a priori, avant de pouvoir être en relation. Alors qu'en fait, pour pouvoir être en relation, ce dont on a réellement besoin, comme tu le disais, c'est de courage. C'est d'oser avancer à cœur ouvert, c'est d'oser inviter la vulnérabilité dans notre lien, c'est-à-dire oser prendre le risque d'être blessé par l'autre. Et ça, ça demande du courage, parce que oui, être en lien avec l'autre, des fois ça fait souffrir, des fois ça fait peur, mais c'est précisément ça qui va nous renforcer, c'est précisément ça qui va nous nourrir aux endroits où on a mal.
Et il se trouve que, justement, la première étape de la guérison, c'est que la chose puisse être vue et accueillie. On a d'ailleurs rédigé un petit guide sur les 5 étapes incontournables de la guérison. Si ça vous intéresse, vous les retrouverez sur Instagram dans le lien dans la bio. Et la première étape, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir voir, de pouvoir reconnaître ce qui est en train de se passer. Et où mieux que dans le couple, puisque c'est là qu'il y a une relation d'amour. Donc c'est là qu'on a le plus de chances de pouvoir être accueilli là-dedans. Ce qui est paradoxal, parce que, encore une fois, on croit qu'on va être aimé si on cache ça, alors que justement, c'est parce qu'on est aimé qu'on peut le montrer. Et est-ce que ce dont on aurait justement besoin, c'est pas précisément d'être accepté et accueilli avec toutes nos imperfections, tous nos défauts, toutes nos vulnérabilités, toutes nos fragilités? On peut prendre l'image de la convalescence. Est-ce qu'on attend de s'être complètement réparé la jambe pour recommencer à marcher? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas marcher pour que la jambe puisse se réparer? Et en fait, c'est ça. Le corps, il a besoin qu'il y ait de l'appui pour déclencher la production d'os. Il a besoin que le muscle se mobilise pour pouvoir se reformer. Il a besoin de la circulation sanguine pour pouvoir réparer les tissus. Donc, c'est justement en faisant ce qui a besoin d'être vécu, qu'on va pouvoir réparer et ensuite le vivre encore plus pleinement. C'est justement en faisant la chose qu'on va réussir à l'atteindre et qu'on va réussir à la vivre. C'est justement en marchant qu'on va récupérer notre capacité à marcher. Donc c'est aussi en aimant qu'on va récupérer notre capacité à aimer l'autre, à s'aimer soi, à recevoir de l'amour et à considérer que c'est OK, qu'on peut le recevoir, qu'on est digne de ça. Qu'on le mérite.
C'est pour ça que nous, on croit au principe du développement interpersonnel. Alors si le développement personnel, c'est de devoir trouver tout seul, par soi-même, comment faire pour se réparer et pour aller mieux, le développement interpersonnel, c'est au contraire d'imaginer que c'est parce qu'on va être ensemble, c'est parce qu'on va s'exposer à l'autre, c'est parce qu'on va se frotter à l'autre dans la relation qu'on va grandir et qu'on va se renforcer. Parce que quelque part, comme tu le disais, c'est en faisant qu'on apprend. On peut croire qu'on va apprendre à nager en étant assis sur un tabouret. Certains ont essayé et on n'apprendra que la théorie. Mais en fait, tant qu'on ne sera pas complètement immergé dans l'eau, on ne saura pas comment faire pour apprendre à nager. Et la relation d'amour et la relation intime, c'est pareil. On a beau la conscientiser, on a beau l'imaginer, on a beau la répéter, on a beau essayer de corriger tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous-mêmes pour croire qu'on aura développé les bonnes compétences pour enfin réagir de la bonne manière auprès de l'autre.
Il faut s'immerger.
Tant qu'on ne sera pas dans le feu de l'action, tant qu'on ne sera pas au contact de l'autre, en fait, on ne saura pas. Et moi, j'ai passé des années à essayer de me préparer, croire qu'il fallait que je me corrige pour enfin avoir le droit d'aimer et d'être aimé par l'autre. Et je vois bien aujourd'hui, en vivant avec toi tous les jours, à quel point, oui, bien sûr que ça aide de se poser des questions avant, que ça aide d'améliorer notre qualité de conscience, notre qualité de présence, notre capacité de ressenti, notre capacité à voir, à comprendre qui on est. Mais en fait, le contact à l'autre réveille qui nous sommes profondément. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe.
Ça nous lance un défi d'une envergure inégalable.
Donc finalement, ce n'est pas deux personnes qui devraient avoir atteint un certain état statique, un état de développement, un état de qualité, on va dire, et qui du coup se rencontrent pour créer un autre état qui s'appelle l'amour et qui lui aussi serait statique. Donc ça serait « je me prépare » et ensuite on arrive et en fait on est arrivé. Mais bien au contraire, en fait, c'est un chemin, c'est un parcours en fait, c'est un cheminement ensemble dans lequel on va grandir. C'est un processus.
Oui, c'est quelque part ces deux forces qui vont se rencontrer, deux forces qui tendent à évoluer, qui tendent à grandir et qui vont entre elles créer une synergie pour arriver à s'aimer. Aimer est un verbe, donc c'est lui-même un mouvement continu. C'est pas un état d'amour parce que j'ai atteint effectivement le bon état de qualité d'être. Et donc, c'est pas quand j'aurai réussi à, alors j'aurai droit à. C'est voilà d'où je pars, et ensemble, on va aller beaucoup plus loin que là où je serais allé tout seul. Donc, la seule chose dont on aurait en fait vraiment besoin au point de départ, c'est de l'envie d'évoluer et le courage de le faire quelque part. Et pour évoluer, il faut être en mouvement. La meilleure façon d'être en mouvement, c'est d'être en lien avec l'autre, en fait. C'est la relation qui va créer ce mouvement-là, parce que tu vas passer ton temps à bouger, et je vais passer mon temps à bouger, et ensemble, on va créer ce mouvement perpétuel.
Nos cicatrices, ce sont les endroits où on a eu mal dans le passé. Et souvent, on a eu mal précisément parce qu'on n'a pas reçu ce dont on avait besoin à cet endroit-là. On n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin. Et la relation, quand on la construit justement dans l'intimité, va avoir tendance à réveiller ces cicatrices. Parce que si je te mets très proche de moi, alors quand tu bouges, tes mouvements vont me faire mal. Donc c'est paradoxal de se dire que c'est précisément dans la relation intime qu'on va pouvoir réparer ces cicatrices. Donc c'est précisément parce que tu es proche de moi et parce que tu bouges qu'on va pouvoir se donner ce dont on a réellement besoin et qu'on n'avait pas forcément reçu avant. Mais ça va demander précisément beaucoup plus de conscience, parce que plus tu es proche de moi, plus tu vas potentiellement réveiller mes douleurs, et plus il y a des cicatrices, et plus ton mouvement va potentiellement me faire mal.
Oui, et ces cicatrices, c'est tous les endroits où on n'a pas reçu ce dont on a besoin. Donc c'est des endroits qui sont extrêmement douloureux. Et du coup, c'est normal que par défaut, par réflexe, on soit plutôt en mode défense, en mode protection, en mode j'ai pas du tout envie que qui que ce soit s'approche de ces cicatrices. Mais si les cicatrices, c'est justement des choses qu'on n'a pas reçues, alors c'est en y mettant quelqu'un qui va pouvoir les voir, ces cicatrices, les accueillir, comme on disait tout à l'heure, la première étape de la guérison, et puis petit à petit, comment on va co-créer ensemble un système qui va me permettre de nourrir cet endroit-là qui n'a pas été nourri à la base, c'est comme ça que je vais l'apaiser, cette douleur, c'est comme ça que je vais lui permettre de se réparer à cette cicatrice. Donc c'est justement en faisant ce qui serait contre-intuitif et en y mettant de l'amour à cet endroit-là, là où j'en ai pas suffisamment reçu, que je vais apaiser la douleur. Alors que, encore une fois, la douleur me donnerait plutôt le réflexe d'essayer de me protéger. Donc pour reprendre ce que disait Brené et ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la seule chose dont on a vraiment besoin finalement, c'est de croire qu'on est digne de recevoir cet amour, qu'on le vaut, qu'on le mérite. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va ouvrir une porte pour recevoir ce dont on a besoin pour justement apaiser ces cicatrices et nourrir ces endroits-là à l'intérieur de nous. Donc arrêtons de croire qu'il faut qu'on soit autrement que comme on est. Oui, on a besoin de courage et de la volonté d'apprendre, mais pas pour chercher à être parfait. Au contraire, pour chercher à s'aimer et à se relier dans nos imperfections.
C'est paradoxal de se dire on cherche à être parfait en croyant que c'est comme ça qu'on va être aimé. Alors que justement, comme tu le dis, ce courage, on en a besoin pour pouvoir oser être imparfait, oser être comme nous sommes et oser montrer nos vulnérabilités. Parce que la définition de l'humanité, c'est précisément d'avoir des fragilités, d'avoir des vulnérabilités, d'avoir des défauts, certainement pas d'être parfait. Donc, arrêtons de nous tyranniser, arrêtons de nous culpabiliser en croyant que nous devrions être parfaits ou que nous devrions être autrement que comme nous sommes. Osons avancer à cœur ouvert, invitons la vulnérabilité dans nos relations pour qu'elle soit authentique et nourrissante et pour qu'elle puisse nous faire grandir et pour qu'elle nous apporte enfin ce dont on a réellement besoin. Vous êtes digne d'amour, vous êtes digne d'appartenance, tel que vous êtes, sans rien changer.
Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.